Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
Et bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à la une ce matin. À l'heure où la France s'apprête à un très probable nouveau tour de vis sanitaire qui va pénaliser forcément la relance, le Fonds monétaire international dévoilait hier ses nouvelles prévisions économiques pour cette année et l'an prochain. Et si la récession s'avérait finalement moins sévère que prévu, hein, le FMI s'attend désormais à un recul du PIB au niveau mondial de cette année de 4,4%. Il tablait sur moins 5,2 en juin. Le problème, en fait, c'est la suite. Écoutez Christopher Demby, qui est responsable de la recherche économique chez Saxo Bank.
Finalement, la phase de sortie du confinement, elle a été plutôt positive. On a eu un rebond économique un peu plus prononcé que le FMI l'anticipait initialement. Mais le gros souci qu'on a, c'est que finalement, même si la récession est un peu moins forte cette année au niveau mondial, la vraie problématique, c'est comment est-ce qu'on va essayer de gagner les derniers points de croissance l'an prochain et en 2022. Et le message du FMI est très clair, c'est-à-dire que ça va être beaucoup plus compliqué qu'on l'anticipait, et notamment ça va prendre beaucoup plus de temps, tout simplement parce qu'il y a notamment l'incertitude sur l'évolution de la pandémie. Donc le message est positif sur le court terme, mais sur le long terme, le FMI nous dit très clairement, ça va être dur, il faut s'attendre à ce que ce soit difficile pendant encore au moins 1 ou 2 ans.
Voilà, pour la France, le FMI s'attend à une récession cette année de 9,8%. On est assez proche des prévisions gouvernementales. L'an prochain, le FMI voit un rebond en revanche de seulement 6%. C'est quand même 2 points de moins que ce qu'anticipe Bercy. Seul pays attendu en croissance en 2020, c'est la Chine, dont le PIB croîtrait de presque 2% cette année, avant de revenir à 8,2 l'an prochain. L'actualité ce matin, c'est aussi l'Union européenne, autorisée par l'OMC à taxer 4 milliards de dollars d'importations américaines. C'est toujours ce vieux conflit sur les aides publiques entre Airbus et Boeing. L'UE n'a pas encore appliqué de sanctions, mais la France l'encourage à le faire si aucune solution n'est trouvée avec Washington. Washington qui applique déjà depuis l'automne dernier des surtaxes sur 7,5 milliards de dollars de produits européens, dont de nombreux produits français, à commencer par les vins. L'Europe qui par ailleurs encourage les États membres à continuer à soutenir financièrement leurs entreprises. Prolongation du mécanisme exceptionnel d'autorisation des aides publiques, au risque d'ailleurs d'accroître les déséquilibres dans l'Union, puisque à elle seule, l'Allemagne représente plus de la moitié des aides d'État au secteur privé.
Le journal de l'économie sur Radio Classique.
Il est 6h42. À propos d'aide publique, Bercy lance aujourd'hui des prêts exceptionnels aux petites entreprises qui n'auraient pas eu accès aux prêts garantis par l'État. Bonjour Eric Mauban.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Voilà, on parle d'environ 20 000 entreprises qui ont trouvé porte close quand elles sont allées voir leur banque et qui ont besoin de cash rapidement. Le gouvernement promet un dispositif très simple.
Voilà, ce prêt exceptionnel est accordé aux petites structures de moins de 50 salariés. Pour l'obtenir, elles doivent s'adresser aux comités départementaux d'examen des difficultés des entreprises. Dès le feu vert obtenu, il leur faudra remplir quelques coordonnées sur une plateforme numérique sécurisée. Le prêt sera obtenu dans un délai de 10 à 15 jours. Il est prévu une enveloppe de 100 millions d'euros. Une petite entreprise de moins de 10 salariés pourra obtenir un montant maximal de 10 000 euros. Entre 11 et 49 salariés, ce sera 50 000 euros. Le taux de ce prêt exceptionnel est de 3,5%. Alors c'est plus cher que la fourchette de 1 à 2,5% des PGE. L'avantage est qu'ils sont remboursables au bout de 7 ans maximum. Ce sont des quasi-fonds propres, c'est-à-dire qu'ils renforcent le capital et n'obèrent pas la capacité de contracter de nouveaux emprunts. En cas de difficulté, ces prêts pourront être remboursés en dernier, après le remboursement des autres dettes contractées. Une vraie bouffée d'oxygène pour des PME qui s'apprêtent à connaître des semaines difficiles.
Voilà, et toutes les informations sur ces nouveaux prêts sur le site impots.gouv.fr. Merci Eric Mauban. Au chapitre fiscal, la rumeur aura fait long feu face aux critiques. Bercy renonce à augmenter la taxation du samplon 95 E10, ce carburant enrichi en éthanol qui coûte aujourd'hui 2 centimes par litre de moins que le 5. Il devrait donc le rester l'an prochain. L'actualité des entreprises avec la course au vaccin anti-Covid et un deuxième essai clinique suspendu en 24 heures après Johnson & Johnson. C'est au tour du laboratoire Eli Lilly de mettre en pause les tests de son traitement expérimental à base d'anticorps de synthèse injectés en intraveineuse. C'est le genre de traitement qu'avait reçu Donald Trump à l'hôpital. Le laboratoire ne détaille pas les raisons de sa suspension. Et puis peut-être avez-vous chez vous, sûrement d'ailleurs, des meubles IKEA. Sachez que du 24 novembre au 3 décembre, dans 27 pays dont la France, le géant suédois va vous proposer de racheter vos anciens meubles pour ensuite les revendre. opération baptisée Buy Black Friday qui va permettre aux spécialistes du meuble en kit de se lancer dans l'économie circulaire. Céline Cajoulis.
C'est l'une des critiques souvent faites à l'entreprise suédoise, vendre des produits peu chers qui poussent à la surconsommation et au gaspillage. Alors, comme certaines marques d'électroménager ou de vêtements, IKEA va échanger ses anciens meubles contre des bons d'achat dont la valeur peut aller jusqu'à 50% du prix du produit neuf. Des bons d'achat valables dans ses magasins. Une façon de faire du recyclage, mais surtout d'inciter les clients à revenir faire de nouvelles emplettes. Les meubles ainsi rachetés seront remis en vente à l'occasion du Black Friday et tout ce qui ne sera pas vendu sera recyclé ou donné pour venir en aide aux personnes les plus touchées par la Covid. L'enseigne dispose déjà d'espaces dédiés à la vente de meubles d'occasion dans pratiquement tous ses magasins français et prévoit d'en ouvrir de nouveau d'ici à l'an prochain. IKEA s'est également engagé à devenir un acteur de l'économie circulaire d'ici à 2030.
Dans l'audiovisuel maintenant, lancement imminent pour Salto, la plateforme de streaming des groupes français de télévision. Elle fera ses débuts Salto mardi prochain, le 20 octobre, à des tarifs de 7 à 13 euros hein, selon le nombre d'écrans. Quelle contribution d'ailleurs pour les plateformes de streaming à la création française? Ce sera sans doute entre 16 et 30% de leur chiffre d'affaires en France et même sûrement plus précisément entre 20 et 25%. C'est ce que croient savoir les échos et les arbitrages hein, sur cette contribution des Netflix et autres. Doivent être rendus d'ici quelques jours. Et puis l'actualité judiciaire aussi pour le groupe Lagardère. Le tribunal de commerce de Paris doit dire dans la journée si le groupe doit ou non tenir à la demande de Vivendi et d'Amber une nouvelle assemblée générale. Un troisième acteur est en train de monter en puissance au capital de Lagardère. C'est Groupe Arnault. L'autorité des marchés financiers vient d'annoncer que Groupe Arnault vient de franchir le seuil des 15% du capital de Lagardère. Les marchés pour finir. Le CAC en baisse hier soir. -0,64%, 4 947 points. À Wall Street, le Dow Jones en baisse aussi, -0,55%. Le Nasdaq, enfin, -0,1%. Lesté par Apple, qui était en recul de 3% à la clôture. Apple...